c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et Langélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle hebdo de Chute, on écoute la télé en cette Saint-Valentin. On va parler de famille, on va parler d'amour, on va parler de plein de choses aujourd'hui pour cette émission. On va démarrer avec deux coups de cœur cinéma aujourd'hui. Le premier pour La Vraie Famille. Fabien Gorgeard, le réalisateur, accompagné de Lies Salem et Mélanie Thierry, nous rejoignent dans une poignée de secondes. Deuxième partie d'émission consacrée entièrement à l'édition du festival TV de Luchon qui vient de se dérouler. Palmarès, des invités surprises qui vous attendent. Et puis en fin d'émission, nous aurons la chance eh bien, de vous consacrer notre deuxième coup de cœur ciné au film Maison de retraite. Kev Adams, oui, carrément, Thomas Gilou et Firmin Richard seront nos invités exceptionnels pour nous parler de la sortie du film mercredi dans les salles. Tout de suite, on démarre avec notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
La Vraie Famille, c'est notre film coup de cœur cette semaine dans les salles à découvrir mercredi. Le nouveau film, deuxième film de Fabien Gorgeard qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et en plus il n'est pas venu seul Fabien aujourd'hui. Et quel bonheur pour nous de recevoir celle qui joue le rôle d'Anna qui nous a bouleversé dans ce film et qui a eu aussi le prix d'interprétation féminine à Angoulême. C'est Mélanie Thierry. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et puis celui qui joue Driss dans le film. Voilà, un papa peut-être plus en retrait mais tout aussi convaincant et surtout aussi très émouvant. C'est Lies Salem. Bonjour Lies.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors ce projet est né, Fabien, vraiment d'une histoire quand même relativement personnelle, La Vraie Famille, pour vous.
Oui, absolument. C'est une histoire que j'ai envie de raconter depuis très longtemps et en ne sachant pas par quel bout j'allais pouvoir la prendre. Le fait d'avoir fait un premier long métrage, Diane à les épaules, qui était une manière très détournée de le raconter, m'a un peu délesté et m'a autorisé à mettre le nez dedans et surtout a été un travail de... Donc on a été famille d'accueil, j'ai été enfant... Il y a un petit garçon qui est arrivé dans notre famille, il avait 18 mois, il est reparti, il avait 6 ans. C'est un peu le schéma de base familiale du film. Mais j'ai par ailleurs fait un travail d'enquête où je suis allé rencontrer d'autres familles d'accueil, écouter des histoires d'autres éducateurs spécialisés que j'ai nourris, que j'ai greffés à la mienne.
Et on est vraiment dans le réalisme, on découvre des choses quand on n'est pas famille d'accueil. Évidemment, on regarde ça d'un œil extérieur et on voit des choses des fois mais qui sont tellement absurdes dans une histoire parce que on y suit vraiment voilà ce couple avec ses 3 enfants dont un qui a été placé chez eux à l'âge de 18 mois. C'est la vraie famille en quelque sorte qui se compose, même si c'est pas une famille de sang totalement, c'est une famille de cœur avant tout. Et à l'âge de 6 ans, son père veut le récupérer pour nouer une relation qu'il a pas pu nouer jusque là avec son fils. Et là, pour Anna, ça va être un peu le drame quand même.
C'est-à-dire que oui, on a un attachement profond pour un enfant qui arrive comme ça, un peu fragile. On a envie de le protéger, on va le voir grandir, on va l'entendre parler ses premiers mots, ses premiers pas. Et il y a un attachement totalement fusionnel entre cette femme et cet enfant. Donc quand il s'agit du moment où c'est dans l'ordre des choses, mais il faut bien qu'il retrouve son père, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais simplement, c'est que le déchirement pour Anna va être terrible parce qu'elle n'est pas préparée à ça si subitement et parce que il va falloir qu'elle apprenne à ne plus être la mère de cet enfant et c'est pas une chose simple.
Non, c'est clair, il y a des scènes bouleversantes entre Anna et Simon, vous verrez dans le film. Lies, le personnage de Driss, comment vous l'avez appréhendé vous?
Écoutez, moi ce que je me suis raconté beaucoup c'est que c'est un personnage qui avait assez vite compris ce qui allait advenir une fois qu'on apprenait que l'enfant devait repartir vivre avec son propre père. D'abord, il trouve que c'est une chose tout à fait normale. Alors, non pas qu'il ait moins d'affection ou même d'amour, peut-être, pour Simon, Driss. Il y a un contrat qu'il a compris.
Il a plus de distance, peut-être.
Oui. Encore que, il n'est pas le référent, mais il a aussi grandi avec cet enfant. Il a passé beaucoup de temps avec cet enfant. Ça fait partie de sa vie, quoi. Mais par contre, je crois que, de la même manière que si chez Anna, il y a quelque chose de la maternité animale qui, tout d'un coup, combat cet état de cause qui fait que l'enfant doit partir, chez Driss, il y a un instinct, peut-être, paternel qui lui dicte que si cet enfant doit partir, c'est une chose, mais il faut qu'il sauve le bateau. Et le bateau, c'est Anna et ses deux enfants. Et qu'il faut traverser ce séisme et cette tempête en ressortant debout. Donc j'ai l'impression que, autant elle est dans un rapport extrêmement animal à l'enfant, où elle est comme une tigresse, une louve, qui ne peut pas lâcher son enfant. Lui, à l'inverse, même s'il y a autant d'amour, il pense à ce qui était avant et ce qui devra être après, à savoir à sa famille.
Et puis dans l'équation, il y a une place qu'il n'a pas à prendre. C'est-à-dire que le père de Simon existe. Voilà. Donc Driss, elle a toujours dû se positionner par rapport à ça. Il a joué un rôle de père, mais il a toujours su qu'il jouait un rôle. Alors qu'à la frontière avec Anna, elle s'est brouillée parce que la mère est absente. Et c'est là toute l'équation impossible à résoudre de l'affaire.
C'est clair. On va écouter la bande-annonce, La Vraie Famille. C'est mercredi dans les salles. C'est vraiment notre film coup de cœur à ne pas manquer cette semaine. Et on revient juste après avec vous. On va parler du petit Simon. Il est incroyable, ce petit. On en parle juste après.
Ah non, je peux pas te laisser faire des choses dangereuses. C'est pas de ma faute, hein. Moi, j'y suis pour rien.
Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui.
Ça, je m'entendais pas ça.
Bon, Simon est arrivé chez vous quand il avait 1 an et demi, donc c'est normal que vous soyez ému.
Ce que je comprends pas, c'est qu'il nous ait même pas consulté, quoi. On compte pas, nous, quoi.
Tu seras où, toi, pendant que je serai chez papa?
Je serai à la maison, je t'attendrai.
Je veux dire, ça m'a fait super plaisir de recevoir une carte de Simon pendant les vacances.
Ouais. De retour pour notre spécial La Vraie Famille, Mélanie, Thierry, Fabien Gorjard et Elias Salem sont nos invités aujourd'hui pour nous parler de La Vraie Famille qui sort dans les salles mercredi. On va parler du petit Simon. Il est incroyable, ce gamin. Il a un regard bouleversant. Il y a quelque chose qui a dû passer tout de suite au casting.
Bah oui, vous mettez le doigt sur exactement ce qui nous a arrêté sur cet enfant, sur la première phase de casting. C'est son regard. C'est la manière qu'il avait de regarder de manière comme ça réelle au premier degré les adultes qui étaient en train de lui parler, quand bien même il savait qu'il était en train de passer un casting. C'était la scène de « faut que t'arrêtes de m'appeler maman ». Voilà, c'était ça. Et la manière dont il avait de regarder, de lever les yeux vers ces adultes qui étaient en train de décider de son sort, moi, m'a bouleversé. C'est le seul enfant où j'ai eu cette intensité de regard là qui se reproduit à chaque fois que je l'ai vu. Et quand bien même c'était un peu fragile, peut-être au niveau du jeu, au niveau de l'apprentissage du texte, au niveau d'un tas de choses qu'il ne savait pas encore à ce moment-là, je savais qu'au moins j'aurais ça chez lui, quoi. Puisque le personnage de Simon, qui est joué par Gabriel Pavier, qui est un enfant extraordinaire, mais c'est un enfant qui allait se retrouver dans des conflits de loyauté permanents. Et que de toute façon, qu'elle n'allait pas pouvoir lui résoudre, et devoir sentir ce sentiment d'impuissance, et en même temps de vouloir entendre de la bouche des adultes ce qu'il allait devoir faire, être, aimer, qui il allait devoir choisir. C'était ça qu'il fallait qu'il passe, quoi. Et dans le regard de Gabriel, il y avait ça.
Et les 4 enfants, il faut le dire, hein, qui sont présents dans le film, c'est leur premier rôle, c'est la première fois qu'on les voit sur l'écran. Mélanie, des fois, vous pouviez être déstabilisée, justement, par Gabriel, par ce regard, justement, par ce qu'il donnait en intensité, des fois, dans les scènes.
Non, mais je trouve qu'il a un regard comme ça, où effectivement, on sent qu'il écoute avec tous ses sens. Il est très attentif, il est très discipliné.
Je sens qu'il y a quelque chose qui est passé vraiment entre vous, quoi. Ça se sent à l'écran, nous, en tout cas, entre vous deux.
Oui, en tout cas, c'est vrai qu'on avait une très belle connivence. Et puis il était volontaire, il était patient. Ensemble, on arrivait à trouver le bon terrain pour se retrouver et avoir des vrais moments d'intensité et d'émotion où on n'avait plus peur de partager quelque chose l'un avec l'autre.
C'est ça qui est chouette et ça se ressent vraiment à l'écran. Yes, vous aussi, vous avez été déstabilisé par moment ou pas?
Écoutez, je peux pas dire que j'ai été déstabilisé. Moi, quand j'y pense, j'ai joué pas mal avec des enfants et j'aime bien ça. J'aime bien jouer avec les enfants parce que ils nous obligent à un acte de vérité. Quand on n'est pas avec eux, ils décrochent assez rapidement. Et moi, c'est un exercice que j'aime plutôt assez. En fait, je me mets à leur service quand je tourne avec des enfants. C'est pas eux qui sont au mien, c'est moi qui suis au leur. Même s'il y a une scène à faire qui est écrite et dont on a besoin pour le bon déroulement du récit, quand on se met à leur service, moi, enfin, en tout cas, c'est mon expérience me pousse à dire, quand je me mets à leur service, il y a tout d'un coup quelque chose où on arrive à obtenir leur acceptation du jeu, en fait. Ils acceptent de jouer avec vous et hop. Et ensuite, ils ont été assez bien préparés et par une personne qui, ouais, et puis par Fabien qui les a bien préparés, donc ils ont bien compris le sens de la scène. Et en général, ça fonctionne. Après, bien évidemment, comme n'importe quel acteur ou actrice, quel que soit son âge, il y a des scènes qui résistent, il y a des séquences qui résistent. Mais ça, je pense, c'est indépendamment des enfants, c'est comme ça.
Ça peut être même évidemment chez les comédiens adultes. Fabien, justement, une scène qui a résisté?
Toutes. C'est là, j'ai pas le recul, mais chaque jour était un vertige, quoi. Parce que effectivement, comme on part de ce travail avec les enfants et on a l'impression que tous les jours, et en fait, c'est pas vrai. Tous les jours, on repartait à zéro sur leur capacité à intégrer ce que c'est que de jouer. Et cette marge-là, elle s'est juste réduite quand même au fur et à mesure de l'avancée dans le film. Moi, j'ai senti devenir ces enfants, des comédiens, et très motivés, très poussés par le fait de se retrouver à jouer devant Mélanie, devant Liès. Ils avaient envie, je fais ce parallèle-là, mais il me semble être le plus simple et le plus juste à comprendre. C'est un enfant qui est fan de foot, il voit Mbappé, il a envie de faire pareil. Et là, les enfants, ils se sont retrouvés exactement dans la même situation. Ils se sont retrouvés devant des Mbappé, ils ont envie de faire pareil. Et ça s'est présenté de manière très simple sur, par exemple, la question de réussir à pleurer. Ils avaient envie de réussir à pleurer parce qu'ils savaient qu'il y avait des scènes qui allaient arriver où il fallait réussir à le faire. Et donc, ils s'entraînaient avant parce qu'ils ont vu les adultes réussir à le faire pour pouvoir être au niveau. Et donc, voilà. Et ça, quand bien même ils n'y arrivaient pas, ça les mettait dans une sorte de condition d'avoir envie de réussir à. Et que moi, j'étais pas, du coup, à un endroit de manipulation pour les choper malgré eux. Y arriver juste, fallait trouver juste le chemin pour les aider, pour les pousser, pour y arriver.
Ben moi, je vous invite à trouver le chemin des salles de cinéma mercredi, puisque La Vraie Famille sort au cinéma. C'est notre film coup de cœur cette semaine. Merci infiniment à tous les trois d'être passés nous en parler. Merci Mélanie.
Merci.
Merci Fabien.
Merci beaucoup.
On se retrouve pour le troisième du coup.
Absolument.
Oriana, j'ai appris que Simon n'était pas avec son père. Je ne comprends pas du tout pourquoi.
Tu savais quand même que t'étais en train de faire une grosse connerie. Lui, il dit que tu l'as manipulé.
Objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, madame?
Une petite pause et on se retrouve juste après avec notre spécial Festival TV de Luchon. Alors à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. On écoute la télé, spécial festival.
Et de retour, on va démarrer donc notre spécial Luchon. On va passer un petit peu ensemble toutes les sections qu'on a pu voir représentées au festival de Luchon. Et on va commencer avec la section espagnole qui est très très importante depuis maintenant des années, depuis le début du festival, puisque l'Espagne est un voisin en plus de Luchon. Et alors je suis en très bonne compagnie pour démarrer avec Maggie Cifuentes qui est avec nous. Bonjour Maggie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous remarquerez ce charmant petit accent espagnol, puisque Maggie, pour les fans de Netflix, vous l'avez vu dans Les Demoiselles du Téléphone, vous l'avez vu dans Vis-à-vis, vous la voyez en ce moment aller dans la série Express également sur Starzplay. Quel souvenir déjà, Maggie, gardez de ces 4 jours passés à Luchon? Je sais que le festival de Luchon, un festival qui compte pour vous, c'est pas la première fois que vous y veniez.
C'est la deuxième fois que je suis venue ici, parce que la première fois, je suis venue pour présenter Vis-à-vis la série. Et j'ai un souvenir très bon de Luchon, parce que je pense que c'est un festival très familier. Et je pense que c'est nécessaire et c'est très bon et avoir un festival comme le festival de Luchon, parce que je sens que j'ai à l'opportunité de parler de l'industrie pour partager. En ce moment, je suis très remerciée à le festival parce que c'est la première fois qu'il y a la section espagnole.
Avec un jury espagnol en plus.
Et oui, exactement. Et je pense que c'est une très bonne idée pour partager et pour montrer ce que nous sommes en train de faire à l'industrie espagnole. Je remercie parce que nous avons l'opportunité de montrer la fiction espagnole.
Puis ça crée une belle connexion entre ce qui se fait en France et ce qui se fait en Espagne, du coup, parce que la fiction espagnole, depuis quelques années, en France, connaît un regain d'intérêt sans précédent, bah justement grâce à des séries comme la vôtre, Les Demoiselles du Téléphone, ou La Casa de Papel, évidemment aussi. Et aujourd'hui, les fictions espagnoles sont de plus en plus populaires en France.
Et oui, et c'est vrai que la fiction espagnole, parce que nous sommes en train de produire beaucoup de fiction, et la plateforme, les Netflix, HBO et Amazon, oui, donner l'opportunité de montrer la fiction à tout le monde.
C'est une porte d'entrée sur le monde assez incroyable pour la fiction espagnole. Maggie, vous avez pu mesurer la popularité que vous aviez en dehors de l'Espagne en venant en France. Est-ce que vous êtes surpris de voir la popularité que vous avez en France grâce à ces séries que nous aussi on a pu voir du coup?
Je suis surpris, oui, oui, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à tourner la Chicas del Cable,
Les Demoiselles du Téléphone,
et merci, je ne pouvais pas imaginer la réaction de l'audience, de la, le public.
Le succès.
Le succès. Je me souviens que je suis allée à Biarritz pour les surf. Beaucoup de personnes m'ont reconnu. Elle m'a dit, oh, félicitations pour la série, très bon. J'ai réalisé que la série est très connue ici.
Maintenant que les Demoiselles du Téléphone ont raccroché le combiné, après 5 saisons, c'est une nouvelle série qui nous arrive, qui s'appelle Express.
Et oui, ici, il y a la possibilité de voir la série.
Starplay.
Starplay. L'histoire, c'est l'histoire de mon personnage et à psychologie criminelle. Et elle est la leader d'un groupe pour les solutions de les tâches.
C'est une négociatrice,
exactement.
C'est ça?
Oui, exactement. La série parle de la famille, parle de l'amour. La série parle de beaucoup de sujets et d'aujourd'hui.
La société qui va toujours trop vite, mais qui va toujours encore plus vite aujourd'hui.
Exactement, merci, oui.
Merci beaucoup Maggie d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc sur Express, 8 épisodes sur Starplay, sur Canal en France très prochainement. Et puis Les Demoiselles du Téléphone, allez voir cette formidable série en 5 saisons que vous pouvez découvrir sur Netflix si vous ne l'avez pas encore vue. Merci Maggie.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Et le jury espagnol a donc décerné ses prix avec une mention spéciale pour Irréal d'Alberto Utrera, qui a eu donc 7 mentions spéciales, et le prix de l'excellence pyrénéenne de la fiction espagnole a été décerné à Nasdrovia, la série de Marc Vigil, avec Anton Yakovlev, que l'on a eu à notre micro. On l'écoute.
Bonjour, bonjour. Je suis touché et bouleversé parce que toutes les bonnes choses elles arrivent en même temps. Justement, la semaine dernière, j'ai reçu le meilleur acteur au Festival de Malte, à Awards. Et cette semaine, on reçoit la série Nasdarovia, on reçoit le Grand Prix de Luchon. Et pour moi, cette série, c'est comme ma pièce d'identité. On dirait le scénariste qui écrit et les idées des réalisateurs, elles étaient parallèles de ma vie. Même les musiques qu'il a utilisées, des Casse-Noisettes, de Tchaïkovski, dans cette série, j'ai vécu toute ma vie avec cette série. Avant, j'étais danseur classique, je dansais beaucoup Casse-Noisette à Théâtre Kirov de Saint-Pétersbourg.
Après l'Espagne, direction le documentaire qui a sa place maintenant depuis plusieurs années au Festival de Luchon et qui cette année a bénéficié de 3 jours d'exposition, une remise des prix qui a eu lieu jeudi soir. Et on a beaucoup de chance puisqu'on a justement la présidente du jury, c'est Mireille Dumas qui est notre invitée pour la première fois. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La première chose que je me suis dit, Mireille, quand j'ai vu que c'était vous qui allez être la présidente du jury, j'ai dit, mais qui peut être plus légitime que Mireille pour être présidente de ce jury.
C'est gentil. Je ne sais pas si on est légitime pour juger, mais ce qui est sûr, c'est que le documentaire, c'est toute ma passion. J'ai commencé par le documentaire avant de faire des émissions en plateau, et aujourd'hui, je poursuis avec le documentaire, parce que le documentaire, c'est vraiment pour moi l'ouverture à l'imaginaire. C'est un genre très créatif et qui permet d'aborder tous les domaines, aussi immenses que l'univers.
Et oui, exactement. Et puis de s'identifier encore plus, parce qu'on n'est pas dans la fiction. On suit vraiment des parcours de personnes.
Oui, des parcours de personnes, mais aussi des films d'archives. On plonge dans l'histoire, on plonge dans la science, la géopolitique, des histoires d'hommes, de femmes, évidemment la société. C'est absolument magnifique. Ça nous conduit dans les étoiles. Donc c'est formidable. Ce sont tous les thèmes de la vie.
Vous n'avez pas hésité une seconde quand on vous a proposé justement de prendre la présidence de ce jury?
Bien sûr, on hésite toujours. On se demande justement si on est légitime d'une part, et puis la deuxième question, est-ce qu'on a le temps, parce que vous savez que c'était très très copieux cette année. Il y a quand même plus d'une presque 30 documentaires qui sont en compétition, donc il faut pouvoir les visionner,
tous les voir.
Voilà, tous les voir. Évidemment, il faut faire le travail très sérieusement, et c'est très copieux parce que effectivement c'est la première année où il y a des catégories différentes. Vous voyez, d'histoire, et toutes les catégories que l'on vient de dénoncer, de société, de culture. Donc toutes ces catégories, il faut pouvoir les récompenser. C'est la première fois. Donc vous imaginez le nombre de documentaires, et on s'aperçoit à quel point justement ce genre est vivant aujourd'hui.
C'est une section qui prend complètement son envol cette année, parce qu'elle était, on va dire, catégorisée avec deux prix, d'habitude à Luchon. Là, cette année, il y a une vraie remise des prix qui a eu lieu jeudi soir, qui a été vraiment consacrée au documentaire. C'est une belle victoire pour le genre.
Ah oui, absolument, absolument magnifique. Et vous savez, ce qu'il y a de plus étonnant, justement, enfin de plus étonnant, je sais pas, en tout cas ce que j'ai envie de souligner, c'est le travail qui est presque quand même ingrat des réalisateurs de documentaires. Vous savez, par rapport à la fiction, ils sont rarement mis sur le devant de la scène. Vous avez beaucoup de documentaires qui sont diffusés maintenant à des heures de grande écoute, mais beaucoup, et le plus grand nombre, tard dans la soirée. Donc, vous voyez, diffusé parfois une seule fois. Donc, pouvoir promouvoir ce genre qui demande beaucoup de curiosité, beaucoup d'humilité, surtout pour le réalisateur, voilà, ça me remplit de joie.
Alors, vous aimez beaucoup aussi réaliser ou produire des documentaires sur des personnalités, très souvent sur France 3 le vendredi soir. On a souvent des documentaires que vous nous concoctez. Mireille, quels sont les prochains projets que vous avez un peu dans les cartons?
Alors, pour répondre d'abord à votre première question, vous savez que je vais justement des portraits d'artistes ou de personnalités aux portraits d'anonymes depuis toujours. J'ai toujours fait ça, et dans les documentaires. Donc là, je continue sur cette lancée et à faire des documentaires d'archives. Et là, je suis en train de finaliser un projet. C'est trop tôt pour en parler, mais pour repartir sur le terrain.
C'était dur de faire un choix, je suis sûr.
Ça a été très très compliqué, et mais finalement nous sommes mis d'accord en même temps assez vite.
Vous avez été bien accompagné en plus à Luchon avec Patrick Fabre, avec Églantine Émeillé, avec Justine Planchon.
Franchement, un jury formidable. Attendez, nous étions 7.
Quel restera le plus beau souvenir de ce festival pour vous à Luchon, Mireille?
Luchon.
C'est pas mal ça.
Ben oui, vous savez, l'arrivée sur Luchon avec toute cette chaîne des Pyrénées enneigées au loin, les torrents, le vert de la campagne, c'était absolument magnifique. Il y avait très longtemps que je n'étais pas venue dans les Pyrénées. C'était sympa, vraiment très sympa. Une ambiance en même temps très professionnelle et en même temps très très amicale. Comme on dit aujourd'hui, les jeunes, friendly.
Merci Mireille, en tout cas, de nous avoir offert ces quelques minutes pendant ce festival de Luchon. C'était une première, mais j'espère pas une dernière. On vous accueille quand vous le souhaitez. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
N'allez pas vous débarrasser de moi comme cela.
J'espère bien.
Je vais revenir.
Ouais, j'ai bien enregistré qu'il y avait un projet là, qui était en cours, que vous pouviez pas parler pour l'instant, mais que vous reviendrez.
Voilà, à très vite.
Et pour le prix géopolitique, le prix a été attribué à Asie Pacifique, la nouvelle poudrière, réalisée par Anne Lousouarn. Pour le prix histoire, ce sont les incorrects d'Alice Milia et les débuts du sport au féminin d'Anne-Cécile Genre qui a été couronnée. Concernant le prix spécial nature et environnement, c'est le documentaire Nouvelle Graine qui sera diffusé dès le 26 février sur la plateforme de France TV qui a été donc décerné avec les co-réalisateurs Sophie Labruyère et Nicolas Mérieux à notre micro.
C'est une immense joie, on est venu ici en étant déjà ravis d'être sélectionnés. Alors en plus d'avoir le prix, enfin c'est une vraie reconnaissance, c'est un vrai retour positif sur ce qu'on a voulu mettre en lumière. Et donc voilà, c'est très plaisant.
Nicolas.
Oh ben moi je suis super content, je suis venu en touriste à la base, je me suis dit génial, on va me faire faire du ski gratos, puis je repars avec un prix, donc bon, je peux être content. En plus c'est une avant-première qui a été diffusée ici au Festival de Luchon, ce film, donc c'est très positif pour l'avenir. Le film sort le 26 février, je pense que avec un prix en poche dès notre premier film, en plus c'est le premier film qu'on réalise tous les deux, donc se dire que premier film, première sélection, premier prix, ouais. Je pense que il y a de bons présages, quoi.
Et 26 février, on pourra le voir où?
Sur France TV Slash.
Le prix de l'excellence pyrénéenne du documentaire, c'est l'Odyssée Double, un œil dans les étoiles, de Laurent Lichtenstein. Ali Noudi, la productrice du documentaire, est à notre micro.
Évidemment, très 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 contente. Et puis, encore plus contente parce que c'est un documentaire scientifique qui gagne le prix d'excellence. D'avoir le prix d'excellence, je trouve ça formidable. Et un documentaire scientifique, encore plus, qu'on n'a jamais l'habitude que les documentaires scientifiques gagnent dans une compétition comme ça. On a toujours l'impression que la science, on est loin de ça, qu'on comprend pas tout et tout. Et effectivement, l'histoire de Hubble, ça nous réconcilie avec plein de choses parce que c'est à la fois une histoire scientifique, c'est une histoire humaine, c'est une histoire artistique, c'est une histoire de philosophie aussi. Quelle est notre place dans l'univers? Donc ça regroupe plein de choses et il y a beaucoup beaucoup de poésie aussi dans le film.
Et on retrouvera bientôt justement l'Odyssée Double sur France 5.
Oui, absolument. France 5 a été très partant dès le départ, a été formidable, nous a vachement bien accompagnés. Et donc ça va être diffusé bientôt dans la case grand format. Qui est le prime time scientifique de France 5, donc en 90 minutes.
Et on va continuer, dérouler tous ensemble, nos jurys après l'Espagne, après les documentaires, c'est au tour du jury fiction, avec une réalisatrice que j'admire beaucoup depuis des années. On a eu l'occasion de se croiser avec Isabelle Nanty du côté de La Rochelle, Colline Serroux, qui est notre invitée. Bonjour Colline.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, présidente du jury fiction. Quand Christian Cap vous a proposé cette tâche, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez dit oui tout de suite?
Je suis pas une téléphage, donc j'ai pas forcément. Mais quand il m'a dit qu'on verrait bien tous les films, qu'il y aurait une plateforme pour les voir aussi, j'étais contente, j'étais très contente de découvrir Luchon, de découvrir tous ces gens sympas qui sont là.
Et puis vraiment aussi des œuvres de télé, mais tellement variées, il y a tellement une belle sélection cette année, ça doit être un régal pour un jury.
Moi, vous savez, j'ai une philosophie. Tous les films qui ont été faits avant moi, en même temps que moi et après moi, qui seront faits, sont géniaux. Voilà. C'est clair, net, précis. J'ai le plus grand respect pour mes collègues. Donc je ne dirai jamais de mal d'aucun film, quoi que j'en pense. J'ai toujours été contre les compétitions, mais toujours. Et parce qu'une compétition, c'est quoi? Vous faites un gagnant et des dizaines de perdants. Pour moi, j'aime pas du tout être la fabrique des perdants. Je pense que l'importance d'un festival, c'est de montrer des tas de films à un public, à des professionnels, et que tout le monde y voit l'extraordinaire biodiversité qu'il y a dans l'expression artistique et qui est au service du public aussi. Donc, moi, je ne suis pas du tout acharnée à décerner des prix, vous voyez.
C'est la première fois, Luchon?
Oui.
Alors, comment vous avez trouvé la ville, ces montagnes? Vous êtes senti bien ici?
Non, c'est bien, c'est beau, c'est très beau, Luchon.
Ah, franchement, on s'y sent bien ici. On est entouré en plus de gens bienveillants. Et ouais, ce jury, franchement, ça, extraordinaire aussi.
Ce que je trouve particulièrement agréable ici, c'est que ça se la pète pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des espèces de zombies en talons hauts qui servent de porte-manteau aux industries de la mode et du bijou, aux bras de vieillards un peu mal, mais qui ont besoin de se redorer la pilule avec des petites jeunes. Ça, c'est pas le festival de Luchon. Luchon, c'est simple et c'est vraiment l'amour de la fiction et du métier.
Et ce jury, Incroyable. Franchement, vous avez été super bien entouré pendant ces quelques jours.
Oui, c'est... on est tous entourés les uns par les autres, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, ils font le boulot, ils voient vraiment les films, ils sont très bienveillants aussi. Et mais entre nous, il y a aussi des discussions sur certaines choses, mais je ne vais pas en parler là.
C'est des discussions constructives, toujours autour des fictions. On va dérouler le palmarès, justement, juste après avec les réactions des lauréats. Justement, c'est toujours dur de choisir, de faire des choix.
Non, ce qui est dur, c'est de faire des prix.
Et de faire des mécontents par la même occasion, du coup.
Je suis contre les prix. Parce que chaque fois que vous faites un prix, vous faites 36 tristes. Et ça, j'aime pas. C'est pas ma philosophie. Je pense que c'est une philosophie encore très patriarcale, où il faut forcément un mec ou une fille qui gagne. Moi, je pense que ce qui gagne, c'est l'existence de la création et du cinéma dans ce pays. C'est cinéma, télévision, c'est ça qui doit gagner. La culture doit gagner. Mais les égaux, les personnes... Je respecte tous les gens, tous ceux qui ont fait des films, et j'ai pas envie qu'il y ait des perdants, donc il y aura énormément de prix.
Génial, c'est super, il y aura des prix spéciaux, des mentions, j'espère. Il y a plein de choses qui vont arriver, c'est ce qu'on va vous dérouler justement dans ce palmarès. Alors juste après vos projets, Colline, est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver bientôt? Est-ce que vous préparez des choses?
Il y en a énormément, mais je ne veux pas trop les divulguer tout de suite, parce que c'est une question de superstition. Par contre, il y a toujours ça, c'est certain. Comme tous les ans, une tournée de 50 concerts par l'ensemble vocal que je dirige et dans lequel je chante. Donc toute la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, du 15 juillet au 15 août. Puis sinon, il y a énormément de choses au théâtre, cinéma, séries, etc.
Il y a des séries en préparation? Vous avez envie peut-être aussi de réaliser des séries?
Ah, j'adore les regarder aussi. Je trouve que c'est un très très beau format, la série. Pour la scénariste que je suis, c'est renoué avec la grande tradition française du roman du 19e, qui était un roman à feuilleton, où on peut, sur un très long temps, décrire finement les personnages sans être compressé par ce format de 90 minutes, quoi.
Et ça permet d'étoffer les personnages, c'est vrai. Et on termine par dérouler justement le palmarès de cette compétition fiction avec le prix du public de la web-série qui a été attribué à Borderline de Jimmy Conchou. Pour le prix du public du programme Course et Détox, qui l'emporte d'Emmanuel Sapolsky. Sur le prix public de la série fiction, il s'agit de la série Pandore qui a été couronnée de Vania le Turc. Pour le prix du public de la fiction unitaire, c'est Elma Sauvé de Younout Teyanou qui a été donc couronnée de succès et votée par le public en masse. Sur le prix Sandro attribué par Colline Serrault. Il s'agit de la fiction Je voudrais qu'on m'efface. Pour le prix émotion du festival de l'excellence pyrénéenne, le prix a été attribué à l'ensemble des jeunes comédiens de la fiction Andy Gang de Stéphanie Pilonka. Sur le prix de la meilleure musique originale, c'est Philippe Sard qui l'emporte pour Juliette dans son bain. Le prix du meilleur scénario, lui, a été attribué à Florence Lafont et Eric Piccoli pour la fiction Je voudrais qu'on m'efface. Et le prix de la réalisation, quant à lui, a été décerné à Isabelle Doval pour la fiction Deux femmes. Isabelle Doval, on l'écoute à notre micro.
Je suis très très heureuse parce que j'ai gagné aussi le grand prix du jury, donc je suis vraiment ravie. J'ai eu deux prix ce soir, donc je suis très touchée et voilà, je suis très très heureuse.
À qui tu as dédié ces prix?
À tous mes acteurs, à toute l'équipe du film, bien sûr.
Alors le film est à suivre le 28 février sur France 2, Isabelle. Ça sera l'occasion pour toi de venir en parler dans notre émission avec toute une partie de l'équipe. On t'y attend, bien évidemment.
Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je serai là.
Et on va passer aux espoirs avec le prix du meilleur espoir masculin qui a été attribué à Samuel Alain Abitbol pour la fiction J'irai au bout de mes rêves. Pour le prix du meilleur espoir féminin, il a été attribué à la jeune Cassiopée Mayence pour sa très belle prestation dans la fiction Et doucement rallumer les étoiles de Thierry Petit. Cassiopée Mayence était à notre micro.
Bah c'est incroyable, je suis extrêmement touchée et encore très émue. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire et pour ce film aussi parce que c'est une cause qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je suis très émue, très contente.
C'est un encouragement pour un début de carrière incroyable.
Eh ben oui, c'est déjà incroyable d'avoir un prix à mon âge. Donc j'espère que ça va continuer. Et puis sinon, je suis déjà extrêmement émue, extrêmement touchée. Je sais pas trop quoi dire.
Bon, tu viendras en parler au moment de la diffusion. On t'attend dans Chute en écoute la télé. Tu viendras avec toute ton équipe parler de ce très beau téléfilm qu'on découvrira bientôt sur France 2. Merci à toi.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
On continue avec les prix d'interprétation qui ont été décernés à deux duos cette année. Ça a été décidé par le jury. Le premier, c'est pour Julie Debona et Julien Boisselier pour le très beau téléfilm Mise à nu. Et le deuxième duo, c'est Odile Wilmain et Agathe Bonitzer qui l'emporte pour la fiction Deux femmes. Le prix d'excellence pyrénéenne de la fiction francophone étrangère a été attribué à la fiction québécoise Je voudrais qu'on m'efface. Le prix du programme court a également été attribué à Je voudrais qu'on m'efface d'Éric Piccoli. Quant au prix d'excellence pyrénéenne de la série 52 minutes, il a été attribué à la fiction Face à face. L'une des deux héroïnes, Constance Gay, était à notre micro.
Je savais pas que c'était le prix de la meilleure série, donc en fait je suis trop contente. Moi je me dis super, excellence, machin, super. Et en fait du coup c'est le plus beau des travaux d'équipe, c'est la plus belle des récompenses. Je suis la plus heureuse du moment. Voilà.
Super. À qui tu dédies le prix ?
Évidemment, à mon Juju.
Oui, et à Claire Borotra, toute l'équipe. Bravo à vous tous.
Évidemment. Merci.
Et bientôt à suivre sur France 3.
Sur France 3.
Et le jury a décidé de décerner cette année un prix d'excellence pyrénéenne de la fiction polar qui a été attribué à la fiction Maman a disparu. Le producteur François Aramburu était à notre micro.
Chaud, c'est tellement jubilatoire de recevoir quelque chose, un prix, parce qu'on se donne, il y a 2 ans de boulot pour toutes les équipes, pour tout le monde, pour le scénariste, pour la chaîne qui nous accompagne, Anne Didier, Frédéric Goetz et Anne Holmes et François Basset qui a réalisé, Mathieu Savignac qui a écrit. Je suis tellement content pour Claire Borotra et Claire Kame et le casting qu'on a avec Lou Denis et Lyon aussi et Brigitte Aubry, Jean-Michel Noiret. Et voilà, c'est un merveilleux cadeau d'avoir un prix, c'est une récompense formidable. Et on était en fait les échos, on se disait on va rien avoir, on avait l'impression que c'était un peu perdu. Et puis finalement voilà, on est très contents. C'est un très bel objet, d'ailleurs. C'est ce pâtre Luchonnet, en fait, c'est ça. Je sais pas si c'est ça, mais bon. En tout cas, c'est super content. C'est la récompense de 2 ans de travail avec toute une équipe.
Et on termine par le prix de l'excellence pyrénéenne de la fiction unitaire qui a été attribué à la fiction Deux femmes, réalisée par Isabelle Doval. Le scénariste Stéphane Brissé et le producteur Jean-Marc Auclair étaient à notre micro.
Ah, on est extrêmement content, extrêmement ému parce que on pensait pas. Et 3 récompenses pour un film comme ça, des récompenses importantes comme le prix du jury, enfin le prix du festival, le prix des comédiennes, le prix de la réalisation, c'est quand même des grosses récompenses. Donc on est ravis, on est fou de joie et on est content parce que le film va être diffusé bientôt. Et donc on est très très content.
Stéphane, le scénariste aussi, du coup est récompensé à travers ce prix. C'est vraiment l'ensemble de l'équipe.
Ouais, et puis en plus c'est un film qu'on a vraiment fait tous ensemble. Alors c'est vrai que ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, les gens le disent un peu par politesse, mais c'est vrai, c'est vrai. Nous, dès le début, tous les deux producteurs scénaristes, on s'est hyper bien entendus, France 2 nous a suivis, et après tout le travail qui a été fait ensuite par Isabelle Doval, par les acteurs, a été totalement dans la droite lignée de ce qu'on avait imaginé au début. Enfin, moi, ce que j'ai imaginé en écrivant et ce que Jean-Marc avait comme désir de film. Donc c'est une satisfaction qu'on soit récompensé, en plus qu'on soit récompensé pour la fiction, pour la réalisatrice et pour les comédiennes, ça vient justifier toute la démarche qu'on avait depuis le début, quoi, qui était de faire quelque chose de totalement cohérent en hommage aux femmes, à la défense de la liberté féminine. Et je trouve que ces 3 prix racontent assez bien la cohérence absolue qu'on a eue depuis le début, quoi.
Dans un instant, on va terminer l'émission avec notre spéciale maison de retraite. Oui, Kev Adams, Firmin Richard et Thomas Gillot arrivent. À tout de suite dans Chut, on écoute la télé pour notre dernière partie.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. La télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Et
on démarre tout de suite notre spécial maison de retraite. Le film sort enfin dans les salles mercredi. Ça sera donc le nouveau film de Thomas Gilou, coproduit et co-scénarisé justement par Kev Adams, qui est également notre invité aujourd'hui. Bonjour Kev.
Bonjour, comment allez-vous? Ça fait très plaisir d'être avec vous à deux jours de cette sortie. Croyez-moi, je suis extrêmement stressé et je suis pressé de savoir si les gens vont aller voir ce film dans les salles après-demain ou pas.
Eh ben moi, je suis sûr qu'ils vont y aller parce qu'on va leur conseiller d'y aller. En plus, moi, j'ai eu la chance de le voir à l'Alpe d'Huez. Il est formidable, ton film, Kev, franchement. En plus, j'ai l'impression que tu passes depuis le début de l'année. Tu passes le début de l'année avec nous, là, entre le film de Claude Lelouch et là, c'est génial. Thomas Gilou, réalisateur. Bonjour, Thomas. Merci d'être avec nous à nouveau.
Merci à vous d'être là aussi.
Et puis, alors là, beau cadeau en plus parce que vous n'êtes pas venu tout seul. Vous avez ramené Firmin Richard et toujours un grand bonheur, Firmin.
C'est pas le beau cadeau. Ben, merci. Merci, merci, merci. Non, mais je suis ravi d'être là.
Et qui joue Fleurette dans les films.
Oui, Fleurette l'antillaise qui est antillaise jusqu'au bout, malgré ses années passées en France, justement se retrouve à vivre à l'heure des Antilles.
Alors, on va planter le décor du film dans quelques instants, mais déjà, je crois que c'est un immense soulagement parce que c'est un film qui a été épique, je crois, à monter. Kev, Thomas, ça a été très très compliqué entre le Covid, tourner un film qui s'appelle Maison de retraite en plein Covid, c'est déjà pas évident, mais ça a été vraiment épique, hein, je crois.
Clairement, ça a été une aventure comme pas deux, certainement la plus intense psychologiquement, physiquement que j'ai jamais vécu. Voilà, ça a été un film compliqué à faire. Évidemment, on a eu des soucis de financement. On a eu des soucis d'assurance, on a eu des soucis de casting bien sûr, parce que l'assurance ne voulait pas assurer le film pour des raisons de casting trop âgées. Enfin, on a entendu des choses absolument incroyables. Et puis finalement, on arrive à démarrer ce film et puis on est coupé à cause du Covid. Et pendant 3 mois, on tourne pas et une de nos comédiennes tombe malade du Covid et on a cru qu'on pourrait jamais reprendre. Enfin, je vous la fais très courte, mais c'est vrai que ça a été un film très compliqué, une aventure émotionnelle particulière. Et finalement, ça me rend encore plus fier du film aujourd'hui, puisque on a le film qu'on voulait, on a l'histoire qu'on voulait, c'est-à-dire une histoire de transmission. Une histoire qui traite d'un vrai sujet, mais avec beaucoup d'humour.
Alors Thomas, à quel moment, justement, et qu'est-ce qui vous a séduit dans le fait que Kev vous appelle et vous demande tout simplement de réaliser son film?
Ouais, eh bien, j'avais rencontré Kev, ça faisait longtemps que j'avais envie de tourner avec lui, de travailler avec lui. Et puis, j'avais un projet qui ne s'est pas fait, mais j'avais proposé le rôle principal à Kev. Et c'est vrai que quand il a écrit ce film, Maison de retraite, il a pensé à moi. Donc, il m'a appelé et j'ai lu le scénario. J'ai trouvé ça formidable, et co-écrit par Catherine Diamant. J'ai trouvé ça formidable, et ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait un vrai sujet derrière. C'était pas seulement une comédie. Il y avait de l'émotion, et on parlait des personnes âgées, des maisons de retraite. Et j'aime bien, moi, dans mes films, qu'il y ait un fond comme ça, un peu réaliste.
Ouais, c'est clair, hyper réaliste, et un message en plus très fort dans ce film. On va planter le décor, c'est Milan qui, on va dire, est presque, je crois que le mot est pas trop fort, c'est allergique carrément aux personnes âgées. Voilà, totalement, et qui donc a un petit boulot dans une supérette et va se retrouver face à une personne âgée bien péchue, hein, on va dire, incarnée par Marie-Pierre Cazé, qui est incroyable.
Exactement, en tout cas bien cliché. On a tous déjà vu ce personnage, on a tous déjà assisté à cette scène de cette personne âgée qui cherche ses pièces, qui cherche ses coupons et qui retint toute la file au supermarché. Et c'est vrai que tout part de là, c'est-à-dire qu'on assiste à cette scène un peu cliché, un peu classique. Et Milan, le personnage, va pas du tout être patient, va pas du tout profiter de ce moment-là pour se racheter, mais au contraire va empirer sa situation. Et c'est là que le film démarre finalement, c'est-à-dire qu'à cause de ça, il va être condamné à des travaux d'intérêt général, et à partir de ce moment-là, il va être obligé d'aller travailler dans cette maison de retraite. Et c'est là qu'il va enfin les rencontrer et faire finalement la rencontre de sa vie, hein. C'est l'histoire du film.
Ça va être des rencontres qui vont changer sa vie, et dont celle de Fleurette, qui va être une des rencontres qui va changer sa vie, mais au casting Gérard Depardieu, Marianne Garcia, qui est incroyable, aussi, enfin vraiment tout le plein, Mylène de Mongeau, qui est, enfin bref, c'est un casting de folie que t'as réuni, vraiment, Kev.
Vraiment, effectivement. Et moi, c'était une fierté pour moi de me retrouver, effectivement, à travailler avec Mylène de Mongeau, avec Liliane Rouvert, que j'aime bien, un peu pince sans rire. Et puis, Gérard Depardieu et tout le monde, quoi. Non, mais j'étais vraiment très, très contente. Et donc, Fleurette aussi, c'est la personne qui est toute contente. Finalement, tous ces gens dans cette maison de retraite ont quelque chose, ont une espèce de solitude. Et moi, j'étais tellement contente de trouver quelqu'un qui parlait de ma Guadeloupe, parce que malgré toutes ces années en France, elle est antillaise, mais elle vit à l'heure des Antilles, elle est aux Antilles. Donc, voilà, c'était l'anti-âge de la maison de retraite.
Ouais, le vrai rayon de soleil, moi je dirais comme ça, ça fait du bien avec avec cet accent chantant. On va écouter la bande-annonce de Maison de Retraite, ça sort mercredi dans les salles et on revient juste après avec vous trois.
300 heures de travaux d'intérêt général, ça va, ça va bien dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison.
Bienvenue au Mimosa.
Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage.
Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer.
Alfred.
Enchanté, Milan.
Ferme ta bouche, je te la ferme.
Et c'est Thérèse, Émeric et Jean-Nicole.
Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos.
J'essaye d'arrêter.
Moi, c'est Alfred.
Mais quel con, foulard, ma mère.
Hé, je vous entends, hein.
Il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
Allez, de retour pour notre spéciale maison de retraite, Kev Adams, Thomas Gilou et notre ami Fermine Richard également. Ils sont avec nous tous les trois. Quel bonheur de parler de ce film. Alors je disais, j'ai eu la chance de le voir. Il y a beaucoup d'émotions. Évidemment, dans ce film, il y a aussi beaucoup de rire. Kev, et c'est aussi cette particularité d'avoir co-signé justement ce scénario, d'avoir pu apporter cette dose de rire tout en faisant passer aussi ce message.
Ouais, complètement. C'était l'idée de faire une comédie légère. Où on se marre, qui soit faite surtout pour toute la famille. Moi, j'avais envie que tu puisses te marrer quand t'arrives et t'es de 8 à 78 ans. C'est ça l'idée de ce film. Et c'est pour moi ma plus grande joie, c'est qu'en ce moment on le présente un petit peu partout en France depuis quelques semaines et on se rend compte que il y a des enfants de 8, 9, 10 ans qui sont morts de rire tout le film et qui s'éclatent, qui viennent avec leurs parents et leurs grands-parents. Il y a plusieurs niveaux de lecture pour tout le monde et c'est ça qui me plaît. Après, c'est vrai que c'est un film avec un vrai sujet, un sujet de fond qui est sérieux, qui est assez lourd, qui parle quand même d'un sujet d'actualité. Était fort, qui est l'isolement des personnes âgées, qui était déjà vrai à l'époque avant le Covid, qui l'est encore plus aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, toutes ces choses font qu'aujourd'hui, ça me rend fier de ce film parce que c'est pas facile de faire une comédie sucrée qui s'adresse à toute la famille, qui peut être vue par tous les âges et en même temps où on traite un sujet social qui est quand même assez lourd.
Et puis, il est vrai qu'il y a aussi ce méchant quand même, hein, on peut dire un peu, c'est Antoine Duléry. On sait pas trop quelles sont ses attentions. Il est génial aussi, Antoine, dans son rôle.
Il est génial aussi, c'est très juste, c'est vrai, il est formidable, il fait super bien le job du méchant, quoi, on y croit à fond. Faut pas dévoiler ce qui se passe dans le film, mais évidemment, une bonne histoire, c'est aussi un bon méchant.
Exactement. Thomas, quelle a été la scène peut-être la plus drôle, la plus difficile à gérer, une anecdote qui a pu vous arriver en tant que réalisateur?
La plus drôle, la plus difficile. Moi, je crois que ce qui a été compliqué, c'est ce moment d'arrêt dans le tournage, surtout quand on a été obligé d'arrêter à cause de la pandémie, qu'on savait pas du tout ce qui allait se passer. C'est là où il y a le plus d'appréhension.
Et le projet peut être remis en question, même ça peut être lourd. Oui.
Et est-ce qu'on va rester en vie? Parce qu'on ne sait pas. En plus, on a affaire à des personnes quand même justement un peu âgées. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, Mylène aussi avait été malade, donc c'était compliqué quand même. Et lorsqu'on a repris, on a fait cette scène qui était dehors. C'était au mois de juin. Et on était un des premiers tournages à reprendre en plus. Donc, il y avait l'appréhension du protocole. On ne savait pas si on allait se tenir à 10 mètres les uns les autres. Si on avait à avoir 15 masques, si on savait pas comment ça allait se passer, et puis ça s'est mis en route, et puis on a fait cette scène où il y a tout, où vous êtes tous là dans le jardin, c'était trop merveilleux, tout le monde était heureux d'être là, et c'était comme un recommencement. Et je pense que cette scène-là vraiment me reste en tête.
Il y a beaucoup de scènes chorales, hein, justement, Firmine.
Oui, effectivement, on se retrouve toujours tous. Tous les pensionnaires, effectivement, se retrouvent ensemble. Ah ouais, on était bien ensemble, on était vraiment très bien ensemble. Surtout quand on s'est retrouvés à la fin, on était vraiment très bien et très content de se retrouver.
Une scène qui vous a marqué particulièrement, Firmine?
Mais toutes les scènes qui se sont passées à l'extérieur et où nous étions ensemble, quand on s'est retrouvés, effectivement, grimés, toutes les scènes, ce que vous appelez scènes chorales. La scène aussi où je raconte ma Guadeloupe, je parle du carnaval, je suis trop contente de parler de chez moi à quelqu'un qui ne m'entend même pas, mais bon, ça aussi, ça m'a plu, j'étais contente de faire cette scène, oui.
Il y a Daniel Prévost, Marthe Villalonga, aussi dans les films qu'il faut citer, bref, un casting, je le disais, vraiment de dingue dans ce film, moi je vous conseille vraiment, un casting 10 étoiles, ouais, c'est même plus 3, là c'est 10, et le plaisir aussi de revoir tous ces comédiens incroyables qu'on aime tant. Voilà. Donc merci déjà Kev pour les avoir tous réunis.
Et puis ce qui est important, c'est que c'est des comédiens qui ont marqué leur époque, chacun à leur niveau, que ce soit Firmine, que ce soit Gérard, que ce soit Liliane Rovert, que ce soit Marthe Villalonga, c'est un casting encore une fois extraordinaire. Et ce qui est génial, c'est que ça éduque aussi nos plus jeunes. Peut-être que pour la plupart, ils les connaissent pas et pourtant, ils vont quand même se marrer en les regardant. Et pour les plus âgés, c'est un vrai moment de partage avec les plus jeunes. Donc voilà. Faites une belle action, pensez à vos grands-parents et allez-y avec eux.
Vous verrez peut-être plus les choses pareilles et de la même façon. Et puis je crois que ton grand-père serait très très fier de toi, en tout cas, Kev, après avoir vu ce film, parce que ça lui est évidemment dédié.
Tout à fait. C'est un film qui est dédié à mon grand-père qui malheureusement nous a quitté l'année dernière pendant le Covid, qui était quelqu'un dont j'étais très proche et pour qui j'ai un profond respect. Et voilà, c'est un film qui lui est dédié parce que je suis sûr qu'il aurait adoré voir ce film.
Je suis sûr aussi. Le public a été conquis, en tout cas, à l'Alpe d'Huez, il y a maintenant quelques semaines. Ça sort mercredi dans les salles. Et ça s'appelle Maison de retraite. Merci Fermine. Merci Thomas. Et merci Kev d'avoir été avec nous.
Tu plaisantes. Merci à toi.
Merci, merci.
Merci, merci à vous.
Le petit s'est fait casser la gueule hier soir.
C'est un petit con. Bien fait pour lui.
Il faut l'aider. Il est orphelin. Comme nous.
Je vous revaudrai ça.
Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour.
Tu sais qu'il est ta plus grande force, même. Ta douleur, ma.
Conjoint, 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 voilà.
Il n'y a pas de super-héros sans maman sombre.
T'as compris ? Oui, chef.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Encore deux coups de cœur cinéma qui nous attendent avec le film Compagnon. Nadja et François Favra seront nos invités exceptionnels. On parlera également de la sortie du film Zaï Zaï Zaï. François Dezania sera notre invité. Et évidemment, plein d'autres surprises qui vous attendent. On reparlera aussi de la série Je te promets. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute, on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Vue d'ici, volets battants, coulissants ou persiennes innovants, fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.